Bienvenue sur Provision de vie avec Fabien Végel.
Ce programme vous donne les clés pour votre épanouissement avec une approche originale fondée sur la Bible qui offre des principes intemporels et efficaces pour qui les applique.
D'autres ressources vous sont offertes sur le www.provisiondevie.com.
www.provisiondevie.com.
Provision de vie, nous investissons en vous.
Nous investissons en vous.
D'ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 11, verset 25. Jean, chapitre 11, et au verset 25. Et si vous voulez un titre pour ce message, qui est assez en rapport avec l'actualité, ce serait « Résurrection » ou bien « Retour à la vie ». La résurrection ou bien « Retour à la vie ». Et merci Seigneur, le Saint-Esprit m'a devancé déjà ce matin, n'est-ce pas, en nous communiquant quelque chose. Moi, j'ai vraiment ressenti dans l'esprit comment des choses se passaient et comment le Saint-Esprit est en train de semer dans nos vies, comment le Saint-Esprit est en train de faire bouger les choses. Et j'espère que je ne suis pas le seul à avoir senti ça. Amen. Si vous ne l'avez pas senti, recevez-le par la foi, tout simplement. Vous savez, ce qui compte, c'est pas toujours ce qu'on sent, ce qui compte, c'est ce qu'on sait. Et ce qu'on sait, c'est ce que Dieu dit. Et si on sait ce que Dieu dit à notre sujet, eh bien, on peut le recevoir par la foi. Et qu'on le sente ou qu'on le sente pas, on sait qu'il en est ainsi, parce que Dieu l'a dit. Mais quelquefois, on sent, et ça nous encourage, ça nous fait du bien. Donc, ce matin, Jean chapitre 11, verset 25, est notre sujet, la résurrection, ou bien, retour à la vie. Jean 11, 25, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Mais je veux en particulier souligner, je suis la résurrection et la vie. Alors, bien sûr, en cette période de Pâques, Semaine Sainte et tout ça, on se rappelle bien que Jésus est mort. Et parfois, on se rappelle un peu trop bien qu'il est mort. Et on oublie un peu trop vite qu'il est ressuscité après. Et l'une des choses qui est terrible, c'est de remarquer comment les gens font des efforts pour essayer de se rappeler la mort de Jésus et pour essayer du coup de devenir saint, de devenir pur. Hein, on est bien placé ici en Guadeloupe au sujet du carême. Il y a des gens qui vont jamais à l'église, qui sont même pas vraiment croyants ni pratiquants, mais ils font le carême parce qu'ils ont en eux-mêmes ce sentiment, ce besoin de se purifier. Et alors pendant 40 jours, c'est ça, hein, pendant 40 jours, eh ben, on évite de manger certaines choses. Pendant 40 jours, on évite certaines activités. Pendant 40 jours, on ne se fait pas plaisir. Pendant 40 jours, on s'abstient de toutes sortes de choses en disant, mais on fait le carême. Et combien de fois j'ai entendu pendant ces 40 jours des gens me dire, ah oui, mais c'est carême. Ah oui, mais c'est le carême, donc je fais pas ci, je fais pas telle chose. Ou bien, mais il faut attendre la fin du carême. Et ce qui est terrible, c'est qu'à peine la fin du carême sonne, les mêmes personnes qui étaient en train d'essayer de faire des efforts vont rattraper toutes les erreurs et toutes les bêtises qu'ils n'ont pas fait pendant les 40 jours. Et ça sert à quoi? Et finalement, l'année prochaine, on recommence. Allez, c'est carême. Et vous savez quoi? Ça me rappelle tristement l'ancienne alliance dans laquelle vivait le peuple d'Israël. Ça me rappelle tristement combien ils faisaient toujours les mêmes péchés, combien ils transgressaient toujours la loi et combien ils répétaient toujours les mêmes sacrifices. Et ils n'étaient pas purs pour autant. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons une alliance meilleure. Et Hébreux chapitre 10 déclare que par un seul sacrifice, par une seule offrande, il a rendu pur pour toujours ceux qui sont sanctifiés. La bonne nouvelle, c'est que par un sacrifice, Jésus-Christ nous rend purs, acceptables devant Dieu. Et ce qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes, on peut le faire par sa puissance qui agit en nous. Et pendant que les gens essayent de faire le carême et de faire les chemins de croix et tout ça, mais Jésus est en train de dire, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Si vous voulez faire une marche de santé, monter le morne et puis vous arrêter devant le crucifix, pourquoi pas. Mais le chemin de croix, ça ne sert pas à grand-chose. Jésus l'a fait. Excusez-moi si je dérange les traditions. Je ne suis pas traditionnaliste. Mais le problème, c'est que les gens persévèrent à faire des choses qui n'ont aucune force, aucune vie. Et pendant ce temps, Jésus a tout accompli. Il a fait tout ce qu'il fallait. Donc, vous pouvez faire tous vos efforts si vous ne venez pas à Christ. Ça sert à rien. Et je vais commencer par là, parce qu'avant de parler de résurrection, eh bien, il faut parler aussi de mort. Il faut parler de mort, et en quelques mots, je voudrais nous rappeler combien Christ a accompli quelque chose d'extraordinaire pour nous. Et Ésaïe, chapitre 53, le prophète, plusieurs centaines d'années avant la venue de Christ, avait eu cette révélation, cette image claire de ce que Jésus allait accomplir. Et c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Ésaïe 53, je prends verset 1er. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Vous savez, jusqu'à maintenant, quand quelqu'un ne reconnaît pas l'œuvre de Christ, et pire que ça, quand quelqu'un essaye encore de se rendre pur par lui-même, il est en train de mépriser ce que Christ a accompli. Il est en train de dédaigner l'œuvre de Christ. Parce qu'essayer de me purifier moi-même, c'est finalement dire que ce que Christ a accompli, c'est pas suffisant. Essayer de devenir acceptable devant Dieu par moi-même, c'est dire que l'œuvre de Christ n'est pas suffisante à me rendre acceptable devant Dieu. Verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et là encore, quand nous portons nous-mêmes nos douleurs, quand nous portons nous-mêmes nos fardeaux, quand nous acceptons certaines situations qui nous écrasent comme disant « Ah, mais ça, c'est comme ça, Dieu l'a permis ça dans ma vie. » Ou bien quand nous essayons de porter nos petits problèmes et de nous en sortir tout seuls, nous méprisons l'œuvre de Christ puisqu'il s'est déjà chargé de mes douleurs. Donc si je garde mes douleurs sur moi, je suis en train de dire que Christ finalement n'a pas suffi à porter mes douleurs. Or, la Bible déclare plusieurs fois dans le Nouveau Testament que nous devons rejeter nos fardeaux parce qu'il les a déjà portés à la croix. Et par la foi, notre fardeau que peut-être nous recevons aujourd'hui, eh bien, par la foi, nous pouvons l'associer à ce qui s'est passé à la croix. Quelqu'un dira, oui, mais quand Jésus est mort, c'est bien pour ceux qui étaient avant lui, mais pour nous qui sommes après, comment on va faire? Mais la puissance de l'œuvre de Christ va bien au-delà des périodes, des temps et des circonstances. Ce que Christ a accompli une fois est valable pour tous ceux qui étaient avant lui, mais aussi pour tous ceux qui viendraient après lui. Et donc l'œuvre de la croix est valable pour chacun d'entre nous. Mais elle ne l'est qu'à condition que par la foi, nous reconnaissions ce qu'il a accompli pour nous, et qu'à ce moment-là, tous nos péchés, toutes nos maladies, toutes nos souffrances, toutes nos douleurs sont transférées sur l'œuvre de la croix. Et nous en sommes libérés. Nous n'avons pas à les porter nous-mêmes. On va essayer de devenir bons par nous-mêmes. Verset 5, on vient de le lire. Le 6, nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Vous savez, Jésus n'a pas ouvert la bouche. D'une part parce qu'il était totalement d'accord et consentant à ce qui se passait. Mais Jésus n'a pas ouvert la bouche parce que une seule parole de Jésus l'aurait justifié. Une seule parole de Jésus aurait empêché à ses oppresseurs de continuer l'œuvre qu'ils étaient en train de faire sur lui parce qu'il était totalement juste, totalement pur. Et comme Jésus était totalement juste, il aurait suffi qu'il ouvre la bouche pour dire une chose. Et tout le processus aurait été annulé. Mais Jésus a choisi volontairement, de juste qu'il était, de devenir pécheur à ma place, de pur qu'il était, de devenir sale à ma place, de totalement bien portant qu'il était, de devenir malade à ma place. Et on peut continuer la liste. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés du peuple ? On a mis son sépulcre avec les méchants, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Quand il est dit « il a plu à l'Éternel », c'est pas vraiment que ça lui a plu au sens où ça lui a fait plaisir. Hein, « il a plu à l'Éternel », en fait, ça veut dire « il convenait » à l'Éternel qu'il soit brisé, ou qu'il soit brisé par la souffrance. Parce qu'en fait, pour nous rendre justes, il fallait que la justice de Dieu soit satisfaite. Donc il fallait que quelqu'un prenne ce poids sur lui. Donc il était convenable pour l'Éternel. C'est pas ça a fait plaisir à Dieu, c'est qu'il était juste devant Dieu, qu'il soit brisé par la souffrance. Verset 11, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc ici on voit comment Christ a pris notre place. Et Christ est mort à ma place. Christ est mort pour mes péchés, pour mes limites, pour mes maladies, pour toutes ces choses-là qui aujourd'hui m'empêchent ou peuvent peser sur moi. Il est mort, il a pris ma place. Et en fait, à ce moment-là, c'est moi qui aurais dû être sur une croix. Et même si aujourd'hui la croix n'est plus une condamnation qui a cours, mais si on y regarde bien, c'est chacun d'entre nous qui méritions d'être crucifiés pour nos erreurs, pour nos péchés. Mais Christ l'a fait à ma place. Et on ne va pas lire tous les versets, mais la Bible déclare que non seulement Christ a été à la croix comme ça, mais Christ est littéralement devenu malédiction pour nous. Galates chapitre 3 et verset 13. La Bible déclare qu'il est devenu péché. 2 Corinthiens 5, 21. La Bible déclare qu'il est devenu pauvre, 2 Corinthiens 8, verset 9, pour que nous soyons enrichis. Et plus loin dans l'Épître aux Romains, il est dit que nous avons été crucifiés avec lui. Donc en réalité, quand Christ était là-bas suspendu à la croix, c'était pas juste un homme, c'était même pas juste Dieu fait homme, mais à la croix, la malédiction était crucifiée, puisqu'il a été fait malédiction. À la croix, le péché même a été crucifié. À la croix, la pauvreté même a été crucifiée. Donc aujourd'hui, quand nous considérons la croix, nous pouvons voir que, bien sûr, le Seigneur a pris ma place, mais nous pouvons voir aussi qu'à la croix, il a attaché toutes ces choses-là qui aujourd'hui peuvent me poser problème, qui aujourd'hui peuvent m'oppresser, qui aujourd'hui peuvent me ralentir. Elles ont été clouées. Et dans Colossiens, il est dit qu'il a annulé l'acte dont les ordonnances me condamnaient en le clouant à la croix. Donc quand on vient t'accuser, quand tu te sens condamné, quand tu te sens coupable, lève les yeux vers la croix et dis non, il a effacé l'acte, il l'a cloué à la croix. Quand la maladie toque à la porte et commence à t'oppresser, tu te lèves devant la foi et tu déclares non, la maladie a été clouée à la croix. Quand ton compte en banque commence à devenir rouge, quand ton portefeuille se vide et qu'il y a des difficultés, qu'il y a des défis devant toi, tu te retournes et tu dis non, non, à la croix, la pauvreté a été clouée. C'en est fini, elle est morte. Et on pourrait continuer la liste comme ça. Toutes ces choses-là sont clouées à la croix. Christ en a fini une fois pour toutes avec ça. Mais il nous faut croire et recevoir ce sacrifice. Mais la Bible déclare que si quelqu'un croit que Christ est mort et ressuscité, il sera sauvé. Donc nous avons cette opportunité. Et la bonne nouvelle, je disais tout à l'heure, c'est que Christ n'est pas seulement mort, mais il est aussi ressuscité. Et la Bible déclare à plusieurs reprises, notamment dans Éphésiens 2, que nous sommes ressuscités avec lui, qu'il nous a ramenés à la vie. Et en réalité, pour simplifier, pour faire un schéma rapide, lorsque quelqu'un met sa foi en Christ, et en ce qu'il a accompli pour nous, en fait, cette personne, en un instant, on pourrait dire en un clin d'œil, dans l'esprit, vous êtes cloué sur la croix et vous ressuscitez. Ça, c'est l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Donc c'est lui qui était sur la croix, il l'a accompli pour nous, et maintenant, par la foi, nous n'avons pas besoin, nous, d'aller mourir et ressusciter, mais nous sommes associés à ce qu'il a accompli. Et nous pouvons ressusciter avec lui. Et donc le premier domaine dans lequel nous devons revenir à la vie, et le message finalement de Pâques, c'est pas seulement que Christ est mort, et puis que voilà, c'est dommage, c'est triste, et peut-être qu'il est resté juste pour aller au ciel, mais le message c'est qu'il est mort à ma place, et qu'en ressuscitant, il m'a communiqué la possibilité maintenant de vivre à mon tour. Et que lorsqu'il est mort, moi aussi je suis mort avec lui, et lorsqu'il est ressuscité, je ressuscite avec lui. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de nouvelle naissance. Parce qu'au moment où nous venons à Christ, nous mourons et nous ressuscitons avec lui. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. créature. 2 Corinthiens 5, 17, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Comment ? Tout simplement parce que nous sommes morts et ressuscités. La bonne nouvelle, c'est que nous ne ressuscitons pas dans l'état où nous étions. Nous ressuscitons dans l'état où Christ nous a rendus. C'est-à-dire que nous, quand nous mourons, notre péché meurt. Nos incapacités meurent. Ce que Paul appelle le vieil homme meurt. Et ce qui ressuscite maintenant, c'est une nouvelle créature avec la nature divine, avec les capacités de Dieu, avec la grâce de Dieu agissante dans nos vies. Donc ça, c'est la première chose, c'est de revenir à la vie dans notre communion avec Dieu. Je veux juste éclairer quelque chose que je dis tout à l'heure, parce que j'ai l'impression que c'était pas clair. J'ai dit que les gens essayent de se rendre purs par eux-mêmes, et que ça ne sert à rien. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, en se disant, de toute façon, Jésus va me purifier. Je veux dire, c'est que, bien sûr, nous sommes appelés à une vie de sanctification. Mais il faut comprendre que cette sanctification n'est pas possible en dehors de l'œuvre de Christ. Et qu'il m'a sanctifié, qu'il m'a rendu pur, lorsque je mets ma foi dans ce qu'il a accompli. Et que je dois faire le choix désormais de vivre en cohésion avec cette nouvelle vie pour laquelle je suis ressuscité. D'accord ? Je dis pas non plus qu'on vit n'importe comment en disant, de toute façon, Christ m'a pardonné. Mais de toute façon, après, je me repens et il me repardonne. C'est pas comme ça. Nous sommes une nouvelle personne et nous devons chercher à vivre d'une manière qui lui plaise. D'accord? C'est important de préciser ça, je crois. Mais ça, c'est pour maintenant la mort et la résurrection de ce que Christ a accompli pour nous. Mais ce que je voudrais plus spécifiquement souligner avec vous ce matin, c'est que Christ a fait encore beaucoup plus que ça. Et la bonne nouvelle de l'œuvre de la croix, la bonne nouvelle de Pâques, la bonne nouvelle de la résurrection peut s'appliquer à tous les domaines de notre vie. Et si le point de départ, c'est de mourir à nous-mêmes, de mourir à notre ancien homme, de mourir au péché, à toutes ces choses-là, pour ressusciter avec Christ, c'est-à-dire naître de nouveau et démarrer une nouvelle vie avec lui, ça c'est le départ, mais ça n'est pas l'arrivée. Et dans notre vie aujourd'hui, Dieu a le pouvoir, la capacité et la puissance de ressusciter des choses. Ce matin, Dieu a le pouvoir, la puissance et la capacité de ramener à la vie nos situations désespérées. Dieu a la capacité de ramener à la vie nos rêves que nous avons peut-être abandonnés. Dieu a la possibilité de ramener à la vie nos projets qui peut-être sont restés en suspens. Dieu peut ramener à la vie des relations qui ont été rendues difficiles ou compliquées. Dieu peut ramener à la vie, et je te laisse finir la phrase pour toi-même, ce n'est jamais terminé avec Dieu. Tant qu'il n'y a pas résurrection complète, tant qu'il n'y a pas restauration, tant qu'il n'y a pas vie en abondance, l'histoire n'est pas finie. Mais trop souvent, nous déclarons que c'est fini avant l'heure. C'est pourquoi il est important de saisir qu'il n'y a pas de résurrection sans mort. C'est-à-dire que parfois, nous pouvons passer une situation qui paraît morte, qui paraît difficile, ça paraît compliqué, ça paraît désespéré, ça paraît impossible. Mais il faut passer par cette mort pour pouvoir ensuite voir la puissance de résurrection de Dieu intervenir. Et ça, c'est une grande vérité. Mais le problème, c'est qu'en ignorant cette vérité, les gens voyant peut-être ce passage de mort, s'arrêtent là et disent « c'est fini, c'est mort ». Ils s'installent, ils campent ici, ils plantent la tente, ils disent « c'est mort ». Non, on ne doit pas demeurer dans la mort, dans le blocage, dans l'impossibilité. Mais on doit traverser cette vallée de l'ombre de la mort, psaume 23. Devons traverser cette mort à nous-mêmes, cette mort à notre propre volonté, cette mort à nos propres façons de faire, cette mort à nos propres idées. Nous devons simplement traverser cette situation-là et ensuite voir la puissance de résurrection de Dieu se manifester pour entrer dans une dimension supérieure, dans une dimension élevée et puissante de ce qu'il veut manifester dans notre vie. Saint-Esprit, je te prie d'inscrire ça dans nos cœurs et de nous faire réaliser tout ce qu'il y a derrière cette vérité. Ça paraît simple comme ça, mais il y a une profondeur mais que l'Esprit de Dieu peut nous éclairer et mettre dans nos cœurs. Vous savez, tout le monde veut voir la puissance, tout le monde veut la résurrection, et c'est normal, mais s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Et moi-même, j'ai dit, mais ça paraît tellement évident, et hier, je disais à Sophie, si je dis ça, est-ce que c'est pas trop évident? Elle m'a dit, si Dieu t'a dit, tu dis. Je dis, ok. C'est bon d'avoir une femme qui marche avec Dieu. Et j'ai réalisé que c'était important et que qu'il y avait quelque chose là-dedans. Et peut-être que vous avez l'impression que tout est mort, que c'est fini. Vous savez, quand Jésus est mort à la croix, beaucoup de gens se demandaient, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Notre Seigneur, celui qui faisait tellement de miracles, faisait beaucoup de choses, maintenant il est accroché au bois, il est mort. mais ils avaient une promesse sur laquelle se tenir. Parce que ce même Jésus leur avait dit, « Mon heure arrive bientôt, mais après 3 jours, je reviendrai à la vie, je ressusciterai. » Il a pris des images, il dit, « Détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. » L'Ancien Testament déjà préfigurait ces choses-là. Donc ils avaient cette promesse, et la bonne nouvelle c'est que Christ a accompli sa promesse, il est ressuscité. Et c'est Christ qui était mort et ressuscité 3 jours après selon sa promesse. Pour moi, c'est un encouragement et c'est une bonne nouvelle que toutes les promesses de Dieu sont vraies et qu'elles se réalisent. Parce que s'il a été capable de ressusciter d'entre les morts, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? Montrez-moi quelqu'un qui a été capable de ressusciter d'entre les morts et on en reparlera. Tous les dieux, toutes les idoles, tous ces trucs-là, ils sont morts enterrés au fond de leur tombeau. J'en ai pas vu ressusciter d'entre les morts. Mais Christ l'a accompli, il l'a fait. Et pendant que les gens étaient là en se disant, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Et peut-être Jésus lui-même, bien sûr, il était le Fils de Dieu, mais imaginez la souffrance qu'il a endurée, imaginez comment on l'accusait, comment on le condamnait, comment il était maltraité. Et la Bible dira même que lorsqu'il prit son père dans le jardin de Gethsémané, il va même transpirer du sang, tellement il a une pression, il a un combat en lui-même. Et Jésus, en train de porter cette croix, après avoir pris des coups de fouet par dizaines avec des lanières, des choses qui blessaient, Jésus qui est en train de marcher, tout le monde est en train de le huer, de se moquer, de cracher sur lui, et qui est en train de faire ce chemin, est-ce qu'il n'était pas en bonne position de dire, mais finalement c'est fini, c'est mort, c'est fini pour moi? Mais Jésus savait où il allait. Et il savait qu'il devait endurer la mort, mais il savait que derrière la mort, il y avait la résurrection. Laisse-moi te dire que peu importe la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, peut-être que tu es en train d'être déchiré, d'avoir des gens à côté qui te huent, peut-être qu'on a craché sur toi, peut-être que tu souffres, que tu crois que c'est pas possible, peut-être que tu as des diagnostics qui disent que c'est fini, et peut-être que devant toi tu ne vois rien d'autre qu'un gros trou noir et la mort. Laisse-moi te dire que derrière la mort, il y a la résurrection. Il y a la résurrection. Et Dieu peut ramener à la vie ce qui aujourd'hui est mort, ce qui aujourd'hui n'est pas en état, ce qui aujourd'hui est difficile. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 2, 14... Vous pouvez ouvrir ça parce que c'est important de le voir avec vos yeux. 2 Corinthiens 2, 14. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher. Dieu nous fait toujours triompher. Always triumph. Toujours triompher. Je vais essayer en créole. Ou toujours qu'à triompher. Amen. Toujours. Toujours. Notez ça quelque part. Gravez-le, inscrivez-le, brûlez-le, toujours triomphé. Et quand tu es en train de crouler sous la grosse pierre qu'on a mise sur ton dos, tu l'as dit, toujours triomphé. Et quand on dit, mais toi t'as raté, t'es nul, tu vaux rien, toujours triomphé, toujours triomphé. Et si aujourd'hui on te regarde et que tu n'as pas la tête de quelqu'un qui a triomphé dans ton cœur, tu es debout, tu dis, je triomphe toujours en Christ. Et je te garantis que tu vas triompher. La résurrection arrive. C'est l'heure du retour à la vie. Là où quelque chose est mort, là où tu es en échec, là où tu es en défaite, là où tu as même abandonné, aujourd'hui, la puissance de Dieu est disponible. C'est l'heure de la résurrection. C'est l'heure du retour à la vie. Il me fait toujours triompher. Toujours. Alléluia. Merci Seigneur, je triomphe. Je triomphe sur toutes mes situations. Alléluia. Alors quand tu es dans une difficulté, quand ça a l'air mort, quand ça a l'air impossible, quand ça a l'air fini, dans ton cœur tu persévères, tu crois. Dans ton cœur tu ne regardes pas où tu es, tu regardes devant et tu dis Dieu est à l'œuvre. Dieu est en train de préparer la suite. Je dois triompher. Et laisse-moi te dire que tant que tu n'es pas dans le triomphe, l'histoire n'est pas terminée. Et même si ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu es en chemin, dans la souffrance, dans la difficulté, tu regardes, tu dis je dois triompher, je vais toujours triompher. Ce n'est pas fini. Tant que tu n'es pas debout, ce n'est pas fini. Tant que tu n'es pas dans le triomphe, ce n'est pas fini. Tant que tu n'es pas dans l'abondance, ce n'est pas terminé. La fin de l'histoire n'est pas encore écrite, bien-aimé. La fin de l'histoire, c'est debout, ressuscité dans la gloire. La fin de l'histoire de Jésus, c'est pas mort, accroché sur une croix, même si c'est déjà extraordinaire. La fin de l'histoire, c'est qu'il est ressuscité. La fin de l'histoire, c'est qu'il est monté auprès du Père. La fin de l'histoire, c'est qu'il intercède pour toi et moi. La fin de l'histoire, c'est que chaque jour, chaque minute, à chaque seconde, quelque part dans le monde, quelqu'un est sauvé parce que Jésus a fait quelque chose un jour. Parce que Jésus ne s'est pas arrêté au fait qu'on le rejette où il était, mais Jésus est allé jusqu'au triomphe complet, total. Et l'histoire n'est pas finie parce que bientôt il reviendra en gloire. Il reviendra nous prendre, nous aurons ce corps glorieux. Nous serons devant le trône de Dieu, nous lui donnerons la gloire, l'adoration. Et nous vivrons dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui sont préparés pour nous. L'histoire n'est pas finie. Il me fait toujours triompher. La défaite, je ne connais pas, ce n'est pas mon état. Je peux traverser une défaite, mais je ne campe pas dans la défaite. Je suis toujours triomphant. Et je n'ai pas peur de dire que je réussis tout ce que j'entreprends. La Bible me le dit. Il me dit, si tu prends ton plaisir dans la parole de Dieu, que tu la médites pour la pratiquer, tout ce que tu fais te réussit. Donc moi, je prends ça et je crois. Et je dis, tout ce que je fais me réussit. Et si j'entreprends quelque chose que je n'ai pas réussi aujourd'hui, je ne dis pas que j'ai raté, que je suis en échec. Je dis que tout ce que je fais me réussit. Et si aujourd'hui j'ai raté, je ne fais que traverser cette défaite, cette chose qui n'a pas fonctionné. Et je dis que je vais réussir. Et l'histoire n'est pas finie tant que je n'ai pas réussi. L'histoire n'est pas finie tant que je n'ai pas triomphé, parce que Dieu dit qu'il me fait toujours triompher. Et ce matin, au nom de Jésus, j'appelle à la vie et à la résurrection chaque situation, chaque domaine, chaque point de notre existence dans lequel nous n'avons pas encore triomphé. Et au nom de Jésus, je refuse la médiocrité qui consiste à s'arrêter en chemin. Et je déclare que nous reprenons là où nous sommes arrêtés jusqu'à triompher, jusqu'à toute la victoire. Philippiens, chapitre 1er, verset 6. Dieu dit qu'il rendra parfaite l'œuvre qu'il a commencée en vous. Dieu rendra parfaite l'œuvre qu'il a commencée en vous. Philippiens 1, verset 6. Il la rendra parfaite. Parfaite, ça veut dire totalement conforme à ce qu'elle doit être. Parfaite, ça veut dire accomplie totalement. Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ça veut dire que quand Jésus commence quelque chose dans ta vie, il veut le rendre parfait. Et il le rendra parfait. Le jour où tu as donné ta vie à Christ, donc tu as été restauré dans la relation avec Dieu, tu as reçu sa vie, le salut, c'est très bien. Il a commencé une œuvre. Mais il veut la rendre parfaite. Jusqu'à ce que nous soyons semblables à lui. Jusqu'à ce que sa vie soit totalement manifestée en nous. Jusqu'à ce que nous soyons totalement en position de recevoir tout ce qu'il a prévu pour nous. Jusqu'à ce que nous soyons totalement en train d'accomplir notre destinée. Jusqu'à ce que nous soyons totalement satisfaits et au-delà. Ce qu'il a commencé, il le rendra parfait. Et ce matin, s'il y a dans ta vie une situation qui est morte, s'il y a dans ta vie un projet, un rêve, un désir, une bénédiction, une promesse qui est endormie, qui est là, laisse-moi te dire que Dieu la rendra parfaite. Et ce matin, il faut qu'elle ressuscite et qu'elle revienne à la vie. Vous savez, on est dans un monde où les gens s'arrêtent facilement au chemin. Dans un monde où on abandonne facilement. On dit « Oh, ça n'a pas marché ». On n'est plus habitué à faire des efforts. Mais Dieu, lui, ne l'abandonne jamais. Mais tu sais quoi, même quand toi, tu t'arrêtes, Dieu continue. Et ce matin, Dieu est déterminé à te faire sortir de ton parking. Dieu est déterminé à te faire sortir de là où tu t'es terré. Il est déterminé à te faire décamper en disant, réveille-toi, reviens à la vie, bouge. Parce que je veux rendre parfait ce que j'ai commencé dans ta vie. Parce que je veux t'amener jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas. Tout peut être contraire. Tout peut dire l'inverse de ce que Dieu vous a dit. La question, c'est ce que Dieu dit. Et quand Dieu dit on va de l'autre côté, c'est qu'on va de l'autre côté. C'est pas, et même si au milieu de pas dire bon, on a déjà fait la moitié, c'est bien, on va rester là. Non, de l'autre côté, c'est de l'autre côté. Vous savez, la Bible parle de ce qu'on appelle le bon combat de la foi. Et pourquoi c'est un bon combat? Parce que c'est un combat dont la victoire est déjà assurée. Mais c'est quand même un combat. Le bon combat de la foi. qui est de demeurer fermement attaché à ce que Dieu a dit, qui est de demeurer fermement persuadé que je vais toujours triompher, qui est de ne pas m'arrêter avant d'avoir pleinement vu ce que Dieu avait dit que je devais voir. Le bon combat de la foi, c'est que même quand tout va dans le sens contraire, moi je reste fixé sur ce que Dieu m'a dit. Je reste planté dans les promesses de Dieu. Vous savez, un jour, Élisée, il a été appelé au secours et une femme, en tout cas, dont l'enfant était mort. Et j'ai tellement aimé l'attitude de cette femme. Tellement, on va regarder ça, je devrais retrouver ça sans trop de problèmes. À moins que quelqu'un ait la référence en tête. Ça doit être dans Deux Rois. Voilà, Deux Rois chapitre 4. Deux Rois chapitre 4. On va prendre verset 18. Donc une dame qui a été bénie hein, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et lorsque le prophète est passé, il lui a dit « L'année prochaine, quand je reviendrai, tu auras un fils. » Alléluia. Si quelqu'un n'a pas d'enfant, c'est l'heure de la résurrection pour avoir ton fils. Et effectivement, elle a un enfant. Et puis il arrive ici dans Deux Rois 4 verset 18 que l'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père « Ma tête, ma tête !» Et le père dit au serviteur « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta, l'amena à sa mère et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses, je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Il dit « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ? Ce n'est ni la nouvelle lune ni le sabbat. » Elle répondit « Tout va bien. » Timoulage à mort et qu'a dit « Tout va bien. » Ça, c'est le bon combat de la foi. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici la Tsunamite. Maintenant, cours à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ?» Elle répondit, « Bien !» Les mauvaises langues diront, « Ouais, tu mens. » Les mauvaises langues diront, « Ouais, qu'est-ce que tu racontes? C'est même pas vrai. » Le bon combat de la foi. C'est pas vrai dans le monde naturel, c'est pas vrai pour mon regard, mais c'est vrai dans mon cœur, parce que je crois ce que Dieu dit. Et parce que l'heure de l'enfant n'était pas encore venue. Parce que Dieu n'avait pas fait naître cet enfant pour qu'il meure si rapidement et si de cette façon-là. Tout va bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour le repousser, mais l'homme de Dieu dit « Laisse-la, son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a pas fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur ? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas ?» Élisée dit à Géasi, « Saint-Terrain, prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Mais lorsqu'Élisée arriva dans la maison, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta, se coucha sur l'enfant, mit sa bouche, ses yeux, ses mains sur ses mains et s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta, s'étendit sur l'enfant. L'enfant éternua sept fois, il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit « Appelle cette Tsunamite ». Géasi l'appela, elle vint vers Élisée qui dit « Prends ton fils ». Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre et prit son fils et sortit. Mais ce que j'aime ici, c'est l'attitude de cette femme. Le bon combat de la foi. Combien de personnes auraient dit « Il est mort ». Combien de personnes auraient commencé à crier, à paniquer « Ah, mon fils est mort, c'est foutu, c'est terminé !» Et sans parler de la suite où on va se rebeller contre Dieu. Elle a dit « Tout va bien. » Est-ce que tu vas bien? Ton mari va bien? Ton enfant va bien? Bien. Ça, c'est le combat de la foi. Et ça, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. C'est quelqu'un qui marche dans la foi. Quand tu le regardes, tout va bien. Et quand il parle, tout va bien. Et tu peux commencer aujourd'hui à dire tout va bien pour toi-même. Et tu peux commencer à dire tout ira bien. Et là où ça va pas bien, tu dis tout va bien. Là où tu as des diagnostics impossibles, tu réponds « tout va bien ». Tu sors peut-être de chez le médecin, tu fais des radios, des choses, on te dit « voilà ce que vous avez ». Et vraiment, c'est inquiétant, c'est compliqué, mais bon, on verra ça plus tard. Quelqu'un t'appelle au téléphone « alors comment tu vas ? Qu'est-ce que ça donne ?» Tout va bien. Quelque part dans les psaumes, il est dit « moi je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». Retour à la vie, résurrection, tout va bien. Où tu en es avec ton mariage? Tu commences à vieillir, là, tu prends les cheveux gris, tu prends des habitudes. Comment tu vas t'y prendre? Qu'est-ce que t'en penses? Tout va bien, tout va bien. Dieu est bon. Et Dieu ne commence pas quelque chose pour s'arrêter en route. Et Dieu ne t'a pas appelé pour faire une petite œuvre dans ta vie. Dieu ne t'a pas appelé pour juste mettre quelques miettes de bienfaits dans ta vie, même si c'est déjà, comme je le dis souvent, extraordinaire. Mais il t'a appelé pour faire une œuvre parfaite, une œuvre extraordinaire, une œuvre complète, pour te voir toujours triomphant en Christ. Ce matin, c'est l'heure de la résurrection, du retour à la vie. Et si quelqu'un n'est pas encore ressuscité pour marcher avec Dieu, c'est l'occasion de s'attacher aux vêtements de Jésus et de dire « Seigneur, je renonce à ma vie inutile, je renonce à moi-même, à mes impossibilités et je te reçois comme Sauveur et Seigneur. » Mais même si tu as déjà fait ça, aujourd'hui je suis sûr et je suis convaincu qu'il y a des domaines dans ta vie où tu as besoin d'une résurrection. Mais c'est maintenant, c'est l'heure, c'est le moment. Retour à la vie. Et Dieu rendra l'œuvre parfaite. Et même si c'est toi qui as fait un mauvais choix, même si c'est toi qui as fait des erreurs qui t'ont mis là où tu es, Dieu est bon et Dieu fait grâce. Si seulement tu reconnais, tu t'arrêtes un moment et tu dis, bah, c'est vrai, à ce moment-là, j'ai pas fait un bon choix, à ce moment-là, j'ai fait une erreur, à ce moment-là, j'ai fait de travers, tu te repens, tu restes devant Dieu. Ensuite, tu te relèves et tu te détournes de ses voies et tu marches dans la voie que Dieu te dit et tu verras ta restauration, tu verras la résurrection, la puissance de Dieu. On va finir avec Ézéchiel 37. L'Esprit qui a ressuscité Christ est en nous. Il nous rend la vie. Il nous réveille. Ça remue dans nos cœurs, même dans nos corps. Dieu est à l'œuvre. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, le prophète se trouve face à une vallée remplie d'ossements. Il est dit que ces ossements étaient desséchés. Et l'Éternel va mettre au défi Ézéchiel en disant, Ézéchiel, ces os pourraient-ils revivre? Ézéchiel dira, bah, Seigneur, tu le sais. Et humainement, on aurait dit non, puisqu'un tas d'os, bah, c'est un tas d'os, hein. Mais tout est possible à Dieu. Et Dieu va commencer à donner des ordres à Ézéchiel. Dieu va commencer, verset 4, à dire, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et là, déjà, quelqu'un dira, il y a un petit problème dans sa tête, hein, il parle à un tas d'os. Comment un os va écouter? C'est encore la foi. On regarde pas la chose, on regarde pas la circonstance. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Ah, j'aime cette parole. Un jour, j'ai eu ça vraiment comme révélation, et j'aime ça. Le bruit, il y eut un bruit. Je prophétisais selon l'ordre que l'Éternel me donna, et il y eut un bruit. Il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, leur vint des nerfs, la chair crue, la peau les couvrit, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, l'esprit entra en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Donc Dieu a ce pouvoir, avec un tas d'os, de faire une armée nombreuse et très nombreuse. Et je ne vais pas rester longtemps là-dessus parce qu'on peut avoir plusieurs applications à ce verset. Et moi, c'est un verset qui m'encourage vraiment, excusez-moi si ça paraît négatif, mais sur l'état de l'Église du Seigneur Jésus aujourd'hui, où il y a beaucoup d'endroits où c'est voilà où il y a de la mort, où on a même l'impression qu'il y a un peu un tas de poussière là-dessus. Mais moi, je crois, parce que Dieu le dit, que le temps arrive et le temps est proche où de ce tas d'os, Ce tas de poussière, Dieu va faire ressortir une armée puissante, qui se tienne debout, qui soit l'armée des temps de la fin, qui manifeste la gloire de Dieu, qui restaure le royaume de Dieu, qui manifeste sa puissance. Mais c'est pas trop mon propos du jour. Et verset 11, hein, Dieu explique à Ézéchiel ce qui vient de se passer. Il dit, fils de l'homme, ses os, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite et nous sommes perdus. Mais prophétise et dis-leur, ainsi par le Seigneur l'Éternel, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Vous saurez que je suis l'Éternel, quand j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Ici, il prophétise pour Israël, mais nous savons que l'Ancien Testament est une image, une préfiguration pour nous. Et nous savons notamment que l'Égypte est une image du péché, de la vie sans Dieu, et que le pays de la promesse ou Canaan est une image des promesses de Dieu pour nous. Et ici, il leur dit, voilà, je vous ferai sortir des sépulcres, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et Dieu nous dit, je vous ferai sortir de vos sépulcres, je vous ferai sortir du tombeau pour vous ramener dans le pays de la promesse, pour vous amener à destination, pour vous amener à bon port. Et remarquez que les gens ici disaient, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Et combien souvent on peut entendre des gens nous dire, mais tu sais, moi, j'ai plus d'espoir. Je suis perdu, c'est foutu, c'est fini. Est-ce qu'on n'a pas parfois l'impression, même si on essaye de faire bonne figure, que nos os sont desséchés, qu'on est perdu, qu'il y a quelque chose où c'est fini? Mais l'Éternel dit, je vous ferai sortir de vos sépulcres et je vous amènerai dans le pays de la promesse. C'est l'heure de la résurrection. C'est l'heure du retour à la vie, bien-aimé. Je ne sais pas comment vous le dire, mais je vous le dis. C'est l'heure, c'est le moment, retour à la vie. Il y a des choses qui dorment, qui sont enterrées. C'est l'heure qu'elles ressortent. C'est l'heure du retour à la vie. C'est l'heure de la résurrection. Et ce qu'a dû faire Ézéchiel, c'est de prophétiser. Prophétiser, ça veut juste dire parler de la part de Dieu. Ce que Ézéchiel a dû faire, c'est appeler des choses qui n'étaient pas, mais que Dieu a manifestées. Et la Bible nous dit que par la foi, nous pouvons appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Comme cette femme tsunamite, nous pouvons dire que tout va bien, même si rien ne va. Même si nous sommes oppressés sous des charges, sous des douleurs, comme l'apôtre Paul disait, mais oui, nous souffrons, nous sommes oppressés, nous sommes sous des charges, nous sommes maltraités, mais nous ne sommes pas encore réduits à l'extrémité. Nous ne sommes pas encore écrasés, ça n'est pas encore fini. Et certains diraient, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, parce que Dieu veut nous amener pleinement au cœur de ce qu'il a prévu pour nos vies. Et tant que tu respires, laisse-moi te dire que l'histoire n'est pas terminée. Dieu veut t'amener jusqu'à la vie et la vie en abondance. Dieu veut ressusciter ce matin des choses dans nos vies. Il veut ressusciter des vieux rêves qui sont peut-être endormis. Il veut ressusciter cette dose de foi peut-être qu'on avait à un moment et qu'on a laissé s'endormir. Il veut ressusciter cette folie furieuse qu'on avait de voir la puissance de Dieu. Il veut ressusciter cette simplicité à recevoir les promesses de Dieu et à attendre qu'elles s'accomplissent. Il veut ressusciter ce qu'il nous a dit, ce qu'il a prévu pour nous et que peut-être nous avons abandonné. Là où tu as échoué à un moment donné, laisse-moi te dire que tu n'es pas obligé de mourir avec une liste d'échecs derrière toi. Dieu peut ressusciter les situations pour te mettre en victoire. C'est l'heure de la résurrection, du retour à la vie. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. La Bible déclare que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en moi a le pouvoir de résurrection. Même si c'est déjà mort, il y a la résurrection. Quand c'est difficile, on sait qu'on peut persévérer, marcher par la foi. Et même si c'est mort, si c'est fini, aujourd'hui, il te dit, la puissance de résurrection est disponible. Et nous pouvons rappeler la vie de Dieu. Nous pouvons rappeler l'Esprit de Dieu a soufflé sur nous et a ramené sa vie, à restaurer les choses dans nos cœurs, à restaurer nos situations, à restaurer nos relations. Dieu veut nous amener à la restauration complète, à la résurrection complète. Et aujourd'hui, c'est le moment pour vivre cette résurrection. Chacun pour nous-mêmes, nous avons des domaines, mais Dieu est disponible. Il dit, c'est l'heure de la résurrection. Nous, on célèbre la résurrection de Jésus. Il nous dit, oui, mais cette puissance, elle est là pour vous. Rappelez-vous ce qu'on a dit en début de culte, Romains chapitre 8, où il est dit que si l'Esprit qui a ressuscité Christ est en nous, il nous rendra aussi la vie à nos corps mortels. Il peut rendre la vie à nos situations. Il peut rendre la vie à nos désirs. Il peut rendre la vie à tout ce qui est endormi aujourd'hui. Ce même esprit est disponible et il veut agir pour chacun d'entre nous. Retour à la vie. Pendant que les gens fêtent juste Pâques en se rappelant qu'un jour Christ est mort et ressuscité, c'est déjà très bien. Mais si on nous dit c'est pas tout, je l'ai pas fait juste comme ça pour le plaisir qu'on s'en rappelle, je l'ai fait pour que toi aussi tu ressuscites. Je l'ai fait pour que dans ta vie la puissance de résurrection soit manifeste. Je l'ai fait pour que la puissance de la santé divine soit manifeste dans ton cœur. Je l'ai fait pour que la puissance, la force de conquérir, la force d'aller de l'avant, les capacités de réussir, les capacités d'avancer, l'onction dans ton corps, dans ton esprit et dans ton âme. Il l'a fait pour que ta vie change. Il l'a fait pour que tu reviennes à la vie. Il l'a fait pour que là où les gens échouent, toi tu réussisses. Il l'a fait pour que là où tu as échoué aujourd'hui, tu reviennes à la vie. Il l'a fait pour que là où tu t'es entouré toi-même, tu ressuscites aujourd'hui. Il l'a fait pour que là où on t'a enfermé dans une cloison, là où on t'a mis dans un tombeau, ce matin il roule la pierre. Ce matin il t'appelle, il te dit sors. Sors du tombeau. Et comme Lazare, sors ce matin. Sors du tombeau. Sors de cette situation de mort. Sors des limitations et reçois la vie. Et la vie en abondance. La vie glorieuse. La vie puissante. La vie marquée par la gloire de Dieu. Père, merci. Oh, hallelujah.
Cet enregistrement vous est offert sans frais par le programme Provision, une initiative du Centre Zoé avec Fabien Végel. Il est interdit de le vendre ou de le modifier. Pour tout renseignement, connectez-vous au www.provisiondevie.com.